la force du fabricant.
Capsule.
Radio X.
Supporte ses partenaires.
Faites confiance aux cliniques Viva, votre référence en épilation au laser Triton à Québec. Ultra efficace, sans douleur et traite même les poils fins et pâles. Ce printemps, planifiez votre consultation sans frais et recevez une carte cadeau de 100$ sur vos séances. Cliniqueviva.com. L'école de conduite Pointe-Lévis, c'est 15 formateurs, 7 véhicules, des cours de jour, de soir et week-end, 300 places et des délais respectés en 12 mois ou moins. Inscris-toi, nomme Radio X et épargne 50% sur ton manuel de conduite à Saint-Charles et Lévis. Pour un défi sans quitter la ville, pensez Golfe de la Faune. Évitez le trafic et les tracas du pont. Utilisez le code Autruche Radio X lors de votre réservation et profitez d'une partie 18 trous à pied dès 15h pour seulement 55$. GolfeDeLaFaune.com. C'est le temps de vous procurer vos climatiseurs, échangeurs d'air et thermopompes avec Clim Plus. Mentionnez le code Radio X et courez la chance de gagner une thermopompe de marque Direct Air Plus. Un finaliste par jour et tirage final le 7 juin d'une thermopompe Direct Air Plus d'une valeur jusqu'à 10 000 Climplus.ca.
Choix.
Choix. 98. À Québec, c'est Radio X.
Radio X.
Choix.
Choix.
Faites-vous votre propre opinion.
Oh my gosh! They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
Adolf Hitler et ses acolytes ont plongé le monde dans la guerre la plus sanglante et la plus destructrice de l'histoire. Les dirigeants nazis attendaient maintenant d'être jugés pour crimes contre l'humanité.
The wrongs which we seek to condemn have been so calculated, so malignant and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated.
What happened in
l'Allemagne nazie n'est pas arrivée de nulle part.
Hitler a exploité les sentiments déjà existants dans la population allemande.
Une poignée d'hommes maléfiques peut convaincre des hommes ordinaires à faire des choses maléfiques.
Hitler s'est donné comme mission d'exterminer une race entière. Alors comment punir les responsables ?
Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui semble avoir oublié certaines des leçons tirées du temps de l'Allemagne nazie.
Je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Choix 98.1 Radio X. La nuit est presque tombée, du moins la noirceur, le ciel s'est obscurci avec la pluie qui tombe actuellement sur Québec. Je ne sais pas si c'est le cas de l'autre côté de la veine, mon cher Christian, bonsoir.
Bonsoir. Oui, c'est plutôt pluvieux du côté de ce côté-ci de la veille, comme tu dis.
C'est ce qu'on a annoncé toute la fin de semaine. C'est un bon moment pour du cocooning et être à l'écoute de ce qui sera notre dernière émission pour la saison ce soir. Et de ce que j'ai compris dans la thématique, on est dans les histoires et les énigmes historiques, un peu en continuité de ce qu'on a vécu hier, c'est-à-dire les commémorations du 80e du débarquement de Normandie. Tu voulais nous parler d'Hitler et du Troisième Reich ce soir?
Oui, effectivement. Ce sont des sujet qu'on a abordé à quelques reprises, que j'ai abordé avec toi ou avec Marceau.
Oui.
Mais je trouvais que, cette semaine, on marquait en fait l'anniversaire du débarquement de Normandie, ce qu'on a appelé le jour le plus long, en juin 1944. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ce serait bien de revenir un peu sur ces éléments qui, à chaque fois où on parle du régime nazi, ce sont des éléments qui reviennent. Je pense que parfois, il faut souvent répéter les mêmes vérités pour qu'elles s'imposent. Et je trouvais que l'occasion était bien, était idéale pour ça. D'autant plus que on vient d'entendre une bande-annonce d'une nouvelle série qui vient de prendre l'affiche à Netflix, sur le réseau de Netflix, qui s'intitule Hitler et les nazis. C'est tout nouveau de cette semaine. C'est une série en 6 épisodes. Et on voit un peu la montée et la chute du régime nazi à travers les yeux d'un historien journaliste de l'époque, qui est William Scherer. C'est amusant parce que William Scherer, je me rappelle, ça a été parmi, dans mon adolescence, et parmi les premiers livres d'histoire, de véritable histoire, que j'ai acheté. Okay. Alors, je me rappelle, j'avais avoir 14-15 ans, et Scherer, à ce moment-là, on avait sorti en livre de poche ces deux livres qui s'intitulaient Le Troisième Reich, des origines à la chute, en deux tomes. Et je me rappelais, j'avais acheté ça. C'était lui, Scherer, était un journaliste, correspondant de guerre, principalement pour les États-Unis, malgré que ses reportages étaient diffusés un peu partout à travers l'Europe et l'Angleterre. C'était un correspondant anglophone. Donc, on pouvait l'entendre aussi bien du côté de l'Angleterre que du côté des États-Unis. Et il a vu ces événements, en fait. Il a été aux premières loges, puisque déjà au moment où Hitler va prendre le pouvoir en Allemagne en 1933. Déjà, lui, Scherer, il est correspondant en Allemagne à ce moment-là. Donc, il voit non seulement l'arrivée de Hitler au pouvoir, mais il voit l'ascension du Troisième Reich pour devenir cette force qu'on lui connaît, hein, qu'on va lui connaître. Hein. Il voit un peu le discours qui devient de plus en plus polarisé, fanatisé, hein, je devrais dire. Et il voit aussi les folies de grandeur qui vont s'emparer de toute l'Allemagne sous la férule, bien sûr, d'Hitler, hein, parce que le peuple allemand, j'irais pas jusqu'à dire qu'il a participé au crime, mais quelque part, il y avait quand même un peu un aveuglement volontaire, là, tu sais, de se dire, bon, on croyait beaucoup à Hitler. Et ce qui m'a beaucoup dérangé dans cette série-là, je dois te l'avouer, puis je veux pas faire de politique, je le dis souvent, je suis apolitique, hein. J'ai 61 ans, je n'ai jamais voté de ma vie, parce que la politique, c'est toujours du pareil au même. Quand t'es dans l'opposition, tu peux promettre toutes les choses que tu veux, mais une fois que t'arrives au pouvoir, malheureusement, tu dois composer avec les sous qui sont là, puis tu n'as pas la machine à créer des billets. Là, là. Fait que je pense que les gens arrivent au pouvoir, puis sont tous animés de bonne volonté, puis malheureusement, ben, dans l'opposition, tu peux dire n'importe quoi. Donc, j'essaie de me tenir loin de la politique. Je ne prends pas position sur des débats politiques. Okay. Mais Et je n'en parle pratiquement jamais non plus. C'est un sujet qui est un peu, je dirais pas qui est occulté chez moi ou avec les amis, mais c'est un sujet que je n'aime pas beaucoup parce que, bon, chacun a ses idéologies. Mais j'avoue que quand j'ai regardé cette série-là sur Netflix, et je la conseille à tous les gens, j'ai été pris d'un malaise. Et ce malaise, faut le dire, j'ai vu dans le discours d'Adolf Hitler exactement les mêmes techniques qui sont utilisées par Donald Trump.
Okay.
Donc, s'adresser au petit peuple, se présenter toujours en victime. Hein, on va faire de l'Allemagne great again, c'est make USA great again. J'avais l'impression là qu'avec le temps qui s'est écoulé, là, j'avais l'impression que 80 ans plus tard, là, j'assistais au même discours.
Hein, j'écoutais des empreintes de discours.
Voilà, je voyais là, Hitler là, sur sa tribune qui s'adressait, qui fanatisait ses troupes. Et écoute, j'avais là-dedans, là, il y avait des trucs qui étaient dits. Là, c'était pratiquement du verbatim mot à mot de ce que j'ai entendu dans la bouche de Donald Trump il y a une semaine ou deux semaines. T'sais. Ça, j'ai trouvé ça inquiétant. Puis on a entendu dans la bande-annonce qu'on a fait entendre en début d'émission un historien qui dit « On dirait que les gens aujourd'hui semblent oublier des leçons qu'on a apprises de l'Allemagne nazie. »
Il sous-entend ça, entre autres.
J'ai l'impression que c'est ce qu'il sous-entendait. Là. Cette idée de toujours se victimiser puis d'accuser l'autre d'être responsable de toutes ces déboires. J'avoue que j'ai regardé ça, c'est une excellente série. On voit cette Allemagne-là grimper. On voit d'ailleurs beaucoup de films qui ont été tournés durant les procès de Nuremberg qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on voit les grands dirigeants nazis qui ont été capturés après par les Alliés. Et on voit les procès. On voit d'ailleurs Scherer, celui qui a écrit ces fameux deux ouvrages là, qui sont encore aujourd'hui considérés comme des incontournables lorsque l'on parle de cette période de l'Allemagne, de la Deuxième Guerre mondiale et de la montée du Troisième Reich. Donc, je le conseille, les gens qui sont des férus, qui ont envie d'histoire, c'est vraiment une excellente série et il y a une qualité au niveau de l'image. On a retrouvé beaucoup, beaucoup de films d'archives. À un moment donné, j'avoue que je trouve ça un peu agaçant d'avoir continuellement recoloré des films d'archives. Pour un public plus jeune, voir des images en noir et blanc, ça peut paraître un peu agressant. Mais bon, les films d'archives étant les films d'archives, il y a des images, je l'ai dit aussi, là, en particulier, là, je pense que c'est le quatrième, c'est une mini-série en 6 épisodes, je crois que c'est le 4e ou le 5e épisode où on suit un peu l'arrivée des Alliés, hein, d'un côté, sur le front ouest, c'était l'Allemagne qui gagnait du terrain, hein. En fait, l'Allemagne s'est retrouvée un peu prise entre deux feux, hein, du côté ouest, c'était l'Union soviétique qui avançait, de l'autre côté, c'était les forces alliées, là, américains, britanniques, et éventuellement là, françaises qui se sont joints aux troupes et éventuellement mais ils se sont retrouvés un peu dans un étau. Et quand on regardait ça, là, je pense que c'était dans le quatrième ou cinquième épisode, là, quand les Alliés découvrent les camps de concentration des nazis, là, les camps de la mort, il y a des images qui sont particulièrement troublantes. Là. On n'a pas fait dans la dentelle.
On n'a pas censuré.
Non. Okay. On voit des images qui sont tout à fait troublantes. Quand tu regardes ça, puis t'es pris un peu d'un malaise. Là. Quand tu regardes ça, tu as envie de détourner le regard de l'écran, là, parce qu'il y a des choses qui sont vraiment là, tout à fait sordides. Donc, je conseille. Là, si des gens s'intéressent à cette période, évidemment, c'est un documentaire à voir. Contrairement à bien d'autres documentaires dont on a souvent parlé en ondes qui parlaient d'histoire et qu'on retrouvait justement sur des réseaux comme Netflix, qui n'était pas nécessairement à la hauteur de ce qu'on est, on était en droit de s'attendre. Mais néanmoins, celui-là, c'est vraiment excellent. Donc, je le conseille.
Ben oui, pour que tu l'as, peut-être pas l'encensé, juste un peu fort, mais au moins, tu piques ma curiosité. C'est un des seuls qui n'a pas trop de négatif, là.
Non, le seul élément négatif, comme je te dis, c'est le fait qu'on ait beaucoup coloré des images d'archives. C'est bien réussi, là, quand même, avouons-le. C'est quand même bien réussi. Mais à des moments donnés, on sent qu'il y a une colorisation qui a été ajoutée à l'esthétisme. Qu'on comprend bien que les images n'ont pas été tournées originalement en couleur.
Okay.
Mais à part ce petit détail-là, là, c'est vraiment un choix éditorial. Hein, je veux dire, c'est le réalisateur ou la boîte de production qui ont décidé de colorer les archives pour des préoccupations, probablement pour essayer de rejoindre un public plus jeunes qui ont tendance un peu à trouver, dès qu'on voit des images en noir et blanc, c'est ancien, donc c'est dépassé. Je sais qu'il y a cette réaction-là souvent chez un jeune public, donc là, on a essayé de pallier à ça. Mais c'est vraiment c'est un très, très bon documentaire en 6 parties, donc à voir à Netflix, ça s'intitule « Hitler et les nazis ».
Parfait.
Donc, cela étant dit, il y a 3 sujets que je voulais aborder avec toi, puisqu'on est justement dans cet anniversaire du 80e anniversaire de cette campagne, de l'arrivée du débarquement de Normandie. À toutes les fois où on parle des forces nazies, il y a comme 3 grands mythes qui entourent les nazis, puis surtout au niveau d'un public plus jeune, je dirais un public, quand je dis un public plus jeune, disons un public qui est arrivé plus tardivement, qui n'a pas connu les affres de la guerre, faut quand même le dire, là, il y a de moins en moins de gens aujourd'hui qui peuvent témoigner de cette période-là. Mm-hmm. Hein, je regardais par exemple les gens qui étaient aux commémorations hier ou avant-hier, c'est des gens pour la plupart, ils ont plus de 90 ans, il y en avait même un qui était rendu à 104 ou 105 ans ou un truc comme ça. Donc évidemment, on a probablement assisté à l'une des dernières réunions de ces gens-là parce que évidemment, avec les années qui s'écoulent, ils sont de moins en moins nombreux. Mais quand je dis un public plus jeune, je dirais un public qui est né, par exemple, où on a eu le temps, hein, disons que la génération a eu le temps d'oublier un peu le cauchemar nazi. Donc on parle des gens qui sont nés dans les années 60, 70. Moi-même, je suis né dans les années 60. Et donc, pour nous, un peu, les nazis, c'est des images, c'est des méchants qu'on voyait au cinéma ou à la télé. Hein. C'est eux autres, les méchants. Mais on n'a pas comme un lien de réalité avec ces gens-là. Et on a raconté plein de choses à propos des nazis. Et principalement à partir des années 60, et ces éléments-là, ces histoires-là, qui sont pour la plupart des histoires inventées ou très exagérées ou très transformées, sont devenues un peu dans l'univers un peu de l'insolite ou des théories du complot. Ce sont devenues presque des réalités, alors que pourtant on est très, très éloigné de la réalité. Un des sujets, à chaque fois qu'on parle de Hitler, c'est un sujet qui revient continuellement. Je crois qu'on en a parlé ensemble l'an dernier. C'était c'était, puis on en parlait avec dans le cadre d'une série qui était sortie à Historia qui s'intitulait Hitler déclassifié, et la série tournait. On a réussi à faire 3 saisons, c'est quand même incroyable pour un mensonge de réussir à faire 3 saisons avec ça. Oui. Mais la série tournait, et ça faut quand même le dire, puis je ne mâcherai pas mes mots là, qu'une série comme Historia, un réseau qui s'appelle Historia, puis je m'en fous, même les gens pourraient me dire ouais mais Historia, t'as eu des séries à Historia, je m'en fous complètement. Je ne jouerai pas l'autruche en disant ah c'est une bonne série, c'est faux, c'est un mensonge. Et Historia s'est prêté à ce mensonge là pendant 3 saisons. C'est une série qui s'intitulait Hitler déclassifié, et cette série là essayait de nous entraîner dans la fuite apparemment de Hitler qui selon le scénario de départ ne s'était pas suicidé au bunker. Alors, il faut rappeler pour les gens là qui connaissent moins bien l'histoire que Hitler et Eva Braun, son épouse, hein, il l'avait épousée 2 jours plus tôt, mais qui était sa compagne depuis plusieurs années. Hein, c'était la maîtresse de Hitler. Ils entretenaient une relation ensemble depuis quelques années. Ben, à ce moment-là, donc, on est en avril 1945. Il va donc épouser Eva Braun littéralement la veille de leur suicide. Et le 30 avril 1945, alors qu'ils sont réfugiés, hein, les bombes pleuvent sur Berlin de tous bords, tous côtés. Les Russes sont littéralement, l'armée rouge est littéralement aux portes de Berlin. Hitler est réfugié sous la chancellerie, donc sous le parlement, je peux dire, allemand. Il a aménagé un bunker souterrain. Il est là avec sa garde rapprochée. Et le 30 avril 1945, Eva Braun va mordre dans une capsule de cyanure et lui va prendre une capsule de cyanure également, mais en se tirant une balle en même temps. Parce que, à son avis, mourir empoisonné est une mort non noble pour un soldat. Donc, pour lui, il juge que se tirer une balle, c'est une mort plus noble, comme il se voit, lui, comme le chef des armées. En fait, il se voit le chef de tout en Allemagne. Donc, ouais. Comme il est le chef de l'armée, ben, en même temps, il se tire une balle. Pour lui, c'est une mort honorable pour un soldat de mourir de cette manière-là.
Je pensais que ça pourrait être sûr de pas se manquer, en quelque sorte.
Bon, en fait, la capture de cyanure, ça, tu te manquais pas.
C'est assez efficace. OK.
D'ailleurs, c'est tellement rapide, hein, c'est-à-dire que dès que tu meurs, dès qu'on meurt dans une capsule de cyanure, la mort est quasi instantanée, mais ben, non. Le processus de mort est pratiquement instantané.
Mais
tu peux, ouais, c'est ça. Donc, dès que tu mords dans la capsule, il n'y a pas de marche arrière possible. Tu as mordu dans la capsule, ça peut prendre 30 secondes, une minute avant que tu décèdes. Mais c'est une mort assez atroce parce qu'il y a des convulsions, le corps essaie de réagir. Bon. Mais Hitler, donc, si Hitler avait mordu dans la capsule de cyanure et il fallait qu'il appuie sur la détente de son revolver en même temps parce qu'il n'y aurait pas eu la possibilité de tirer après. Donc, okay. En même temps, tant qu'il a mordu dans la capsule de cyanure, il s'est tiré une balle. Donc, après, il avait demandé, hein, faut dire que quelques jours plus tôt, le dictateur italien fasciste Benito Mussolini avait été lui aussi arrêté. Il y avait eu un soulèvement populaire. Et le corps de Mussolini avait été pendu par les pieds, lui et sa maîtresse, puis ils avaient été traînés dans les rues de Rome. Donc, à ce moment-là, Hitler, voyant ces images-là, s'est dit, ben moi, je ne veux pas finir de cette manière-là.
Non.
Donc, il avait demandé à ses proches, à sa garde rapprochée, d'une fois que je serai mort, je veux que vous preniez mon corps et celui d'Eva Braun, que vous l'ameniez à l'extérieur du bunker et que vous brûliez nos corps. C'est ce qu'ont fait ces acolytes. Donc, une fois qu'Hitler a été décédé, on a constaté leur décès à lui et Eva Braun. Ils les ont amenés à l'extérieur. Et juste à l'extérieur du bunker, il y avait des trous qui avaient été laissés par des tirs d'obus. Donc, ça formait des petits cratères. On a placé le corps d'Hitler et d'Eva Braun dans un des cratères. On les a arrosés d'essence et on a mis le feu. Et rapidement, les gens sont rentrés à l'intérieur parce que, comme je l'ai mentionné, les bombes pleuvaient de partout. Donc, on n'a pas trop attendu. Et les corps n'ont été que partiellement brûlés. Et c'est l'armée rouge. Donc, on est à ce moment-là au début du mois de mai parce que dans les heures qui vont suivre, il y a la capitulation de l'Allemagne. Et au début du mois de mai, la date n'est pas très précise, mais quelque part entre le 3 et le 5 mai à peu près, les Allemands vont envahir la chancellerie, vont envahir le bunker, et là, ils vont trouver le corps d'Adolf Hitler. Bon, évidemment, il y a toute cette histoire de le corps a été brûlé, etc. Puis là, il faut dire que dans l'été qui va suivre, hein, donc on est à l'été de 1945, il va y avoir une réunion en Allemagne qui s'appelle la réunion de Potsdam. Et là, les trois grands puissances sont réunies, c'est-à-dire Churchill est là. Il y a également Truman qui a remplacé Roosevelt et il y a également Staline qui est là, qui représente la Russie. Et à ce moment-là, il faut le savoir, il y a déjà un bras de fer qui commence à s'amorcer entre les forces de l'Ouest versus l'Est. Hein. Donc, t'as d'un côté les Anglais et les Américains, et de l'autre côté, t'as la Russie. Il faut quand même savoir que dans l'historique de la guerre, à un moment donné, Staline s'est fait l'allié d'Adolf Hitler. Hein. Quand Hitler a envahi la Pologne, il avait demandé aux Russes de ne pas réagir. Et à ce moment-là, Staline, c'était deux vieux ennemis, hein, l'Allemagne et la Russie, mais pour ce coup-là, Staline a dit à Hitler, ben, « OK, si vous envahissez la Pologne, nous n'interviendrons pas, mais une fois que vous aurez envahi la Pologne, on va se diviser le territoire en deux. » Donc, pendant un temps, Hitler et Staline ont été des alliés. Et ça, bon, éventuellement, Hitler a envahi la Pologne, puis après ça, il a essayé d'envahir la Russie. Fait que là, son allié s'est tourné contre lui. Mais néanmoins, ce petit jeu, là, ce petit coup de poker, disons que les forces américaines et britanniques n'ont pas vraiment pardonné. Et à ce moment-là, quand arrive la réunion de Potsdam, il y a Staline qui est un peu isolé par rapport aux Britanniques et aux Américains. Et il va y avoir ce qui va probablement contribuer au mythe. Il y a Harry Truman qui va demander à Staline, va dire, bon, ben c'est l'armée rouge qui est entrée les premiers dans Berlin, vous avez envahi le bunker, etc. Vous me confirmez que vous avez trouvé le corps d'Hitler, que Hitler s'est bel et bien suicidé. Et Staline répond par une autre question, tu sais, ben je sais pas, vous en pensez quoi? Tu sais, tu vois le genre un peu. Et ça va créer le mythe. Donc, lorsque Truman revient aux États-Unis, ben, il informe ses gens proches de lui, du cabinet à Washington, il dit, ben là, Hitler, en théorie, selon les témoignages que l'on a des proches qui étaient avec lui dans le bunker, il s'est suicidé, son corps a été amené à l'extérieur, a été brûlé, mais visiblement, Staline ne confirme pas qu'on a trouvé son cadavre et celui d'Eva Braun, ce qui est tout à fait fou, on va le découvrir par la suite, mais néanmoins, à ce moment-là, c'est un peu de cette manière-là que le mythe va se mettre en place, mythe voulant que Hitler aurait peut-être réussi à échapper à l'infamie et aurait réussi à fuir le bunker. Et il faut savoir, et c'est là que, quand je dis l'histoire du mensonge, et on en avait déjà parlé ensemble, le mensonge, là où il s'inscrit, c'est qu'à partir de 1945, donc à partir de cette fameuse réunion de Potsdam, lorsque Harry Truman rentre aux États-Unis, il informe les gens autour de lui en disant « on n'a pas la confirmation qu'Hitler est mort ». Alors, on décide de mener une enquête. Donc, il faut que les Britanniques mènent leur enquête, les Américains vont mener leur enquête. Visiblement, les Russes, eux, c'est une non-réception. On ne dit rien, on ne fait rien, on fait comme si vous n'existiez pas. Et éventuellement, tout ça va alimenter la controverse et à ce moment-là, Edgar Hoover, qui dirige le FBI, évidemment entend parler lui aussi de ça, hein, il est informé qu'il n'y a pas de confirmation que Hitler est mort au bunker. Alors, ce que va faire Hoover, c'est de demander à ses hommes, à ses agents du FBI qui sont partout sur le terrain, il va leur dire, essayez de colliger de l'information auprès des gens que vous entendez autour de vous, hein, parce qu'il y a plein de communautés d'immigrants allemands qui vivent aux États-Unis. Il y a également une forte communauté de gens, de juifs, qui ont fui l'Europe, qui ont gagné les États-Unis. Évidemment, il y a toutes sortes de rumeurs qui circulent parmi ces gens-là. Et donc, Hoover dit, écoutez, portez attention, portez l'oreille à ce qui se raconte, ce qui se dit. Peut-être qu'on va obtenir de l'information pendant que les services officiels vont mener leur enquête de leur côté pour savoir si Hitler est bel et bien décédé au bunker. Et cette histoire de colliger de l'information à gauche et à droite, de prêter l'oreille, de se raconter des raconteurs et des bobards, ça va exister de 1946-47 à peu près, donc au lendemain de la guerre, jusqu'en 1956.
Oh, aussi longtemps que ça?
Oui, pendant 10 ans. Hein? Mais en 1956, là, on arrive, les Britanniques, les Américains arrivent à la conclusion, ils ont interrogé les gens qui étaient au bunker, ils ont eu accès aux informations, il y a eu le procès de Nuremberg entre-temps, les hauts dirigeants nazis, certains ont été pendus, d'autres ont été condamnés, donc, et on a obtenu des informations qui ne laisse aucun doute. Hitler, et en particulier, il y a une enquête qui est menée par les Britanniques qui ne laisse absolument aucune place au doute. Hitler est bel et bien mort au bunker, comme le racontent les historiens, comme l'ont raconté les gens qui étaient là ce jour-là. Il a mordu dans une capsule de cyanure, s'est tiré une balle et les corps ont été envoyés à l'extérieur. Et même ce rapport des Britanniques mentionne que les Soviétiques ont récupéré les corps. Hein? Et on va apprendre plus tard qu'effectivement, les corps ont été récupérés par l'Armée rouge, les mâchoires, il y a eu une identification par les dents qui était catégorique, ne laissant là aussi aucun doute. Les corps ont été d'ailleurs enterrés dans l'arrière-cour d'une maison qu'occupaient les troupes russes en Russie, hein, quand ils sont entrés, c'est-à-dire à Berlin. Il y a un quartier dans lequel ils avaient installé un peu leur QG. Les services de renseignement soviétiques avaient installé leur QG dans une villa en banlieue de Berlin. Et c'est dans la cour de cette villa qu'avaient été enterrés les corps de Eva Braun et d'Adolf Hitler.
C'est un endroit qui est encore connu aujourd'hui?
Non, parce que éventuellement les corps, à partir d'un moment donné, les services de renseignement soviétiques vont décider de déterrer les corps. Ils les ont détruits complètement et les cendres ont été jetées. On ignore où.
Ah, ok.
Ils ont dit simplement, il y a aucun écrit qui a été fait. On a pris les cendres des corps et on les a jetées à l'eau. Puis il n'y a aucun registre qui dit où ils ont été jetés pour éviter que cet endroit-là devienne, avec le temps, une espèce de lieu où des groupes de néo-nazis pourraient se réunir de manière commémorative, tout ça. Donc, okay. On ignore où les corps ont été, mais on sait qu'ils ont été déterrés, détruits, brûlés, et on s'en est débarrassé.
On s'entend que c'est comme la seule partie de l'histoire qu'on a été capable d'effacer.
Voilà. Les seules choses que... Mais les Soviétiques, avant de se débarrasser des corps, ils ont quand même gardé la mâchoire d'Adolf Hitler. Hein?
Okay.
En particulier la mâchoire inférieure. Et Hitler avait une très mauvaise dentition et avait eu une reconstruction en partie des dents de la mâchoire inférieure. Et donc, on a encore la mâchoire, on l'a, elle est conservée aujourd'hui dans les archives de ce qui était autrefois le KGB, qui maintenant s'appelle le FSB.
Okay.
Ils ont une boîte avec la mâchoire d'Hitler à l'intérieur. Donc, mais il faut attendre 1956 pour que les Américains, sur la foi du rapport des Britanniques, disent « Bon, ben c'est fini. Hitler, c'est capote, il est mort, on n'en parle plus. » Et à ce moment-là, Hoover va envoyer une information à tous ses agents en disant « Bon, ben cessez de ramasser vos histoires, là, parce que là, il y a toutes sortes d'histoires qui courent. Une madame a appelé les FBI pour dire « Je pense que je l'ai rencontré au McDonald's du coin. » Une autre dit « Je pense que j'avais une pension pour des itinérants, puis je pense que parmi les itinérants, il y a eu Hitler. » Puis là, ben évidemment, on va découvrir au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale que plusieurs hauts dirigeants nazis ont réussi à fuir vers l'Amérique du Sud. Et parce que, bon, il y a quand même des grandes compagnies allemandes qui ont profité de l'occupation nazie, hein, du temps où les nazis ont été en poste. On pense, par exemple, à des compagnies comme Mercedes-Benz, par exemple, qui ont profité du régime nazi. Ces compagnies-là ont des usines en Amérique du Sud et, quelque part, ils vont réussir à faciliter un peu la fuite de certains dirigeants nazis vers l'Amérique du Sud. D'ailleurs, l'un des procès les plus retentissants du 20e siècle reste encore le procès d'un certain Adolf Eichmann,
qui a été
un peu l'un des artisans de la solution finale et des camps de concentration, qui avait fui en Argentine et qui a été arrêté éventuellement et ramené en Israël, où il a subi un procès et il a été condamné à mort. Mais ça nous montre un peu cette évasion vers l'Amérique du Sud. Et dans la foulée, bien sûr, il y a des rumeurs qui circulent que Hitler et Eva Braun auraient réussi à monter à bord d'un sous-marin qui aurait gagné l'Amérique du Sud, puis là, ben, il vivrait sous d'autres identités, soit au Brésil, soit en Argentine, bon, soit au Paraguay. Et là, évidemment, si on ajoute à ça une espèce de légende un peu extraterrestre ou exotique, Hitler et les nazis auraient gagné des bases souterraines en Antarctique, où on avait installé une espèce de communauté souterraine presque paradisiaque, une forme de paradis terrestre, mais sous les glaces de l'Antarctique. Bon, là, on est vraiment dans le délire. Mais on voit un peu où ça va. Mais là où on se rapproche de ce fameux mensonge, c'est que éventuellement, donc, le FBI dit « OK, Hitler est mort, c'est merci, bonsoir, on termine ça. » Et on ferme les dossiers. Mais il faudra attendre 2014 parce que, bon, la loi d'accès à l'information étant ce qu'elle est aux États-Unis, en 2014, le gouvernement, le FBI en particulier, va mettre, va rendre accessible 742 pages d'archives qui jusqu'alors étaient gardées secrètes, des archives concernant justement cette période de 1945 à 1956 où on s'interrogeait sur Hitler, est-il mort ou non. Et là où le mensonge est tout à fait épouvantable, c'est qu'on juste quelqu'un quelque part, un réseau de télévision s'est dit tiens, on va faire du millage là-dessus, donc ils ont récupéré ces dossiers-là. Puis là, ben ils nous sortent des documents qu'on nous montre à l'écran, puis des documents évidemment qui disent je pense avoir vu Hitler dans un sous-marin, je pense avoir vu Hitler à Buenos Aires dans un petit café, je pense. Et là, on nous montre un scénario, mais on oublie de nous dire que tous ces documents-là sont tous antérieurs à 1956. Tous ces documents-là datent de la période où on ne le savait pas. Tu comprends? Donc, c'est là qu'il est le mensonge, là. Non, on le sait depuis, d'ailleurs. Non seulement on le sait depuis, mais déjà en 1969, il y avait un journaliste russe qui s'appelle Lev Bezymensky, qui avait publié un ouvrage qui s'intitulait « La mort d'Adolf Hitler ». Et Bezymensky avait publié, il avait obtenu du KGB des photographies de la fameuse mâchoire d'Hitler qu'il avait publiée dans son livre. Et là, on est en 1969. En 1973, parce qu'il faut savoir qu'en 1944, à l'été de 1944, il y a eu une tentative d'assassinat contre Adolf Hitler. Hein. C'est ce qu'on a appelé l'opération Valkyrie. Là, on voyait que l'Allemagne est en train de perdre un peu la guerre. Et des hauts dirigeants ont décidé qu'il était temps que Hitler disparaisse. Et là, pour changer le gouvernement et espérer pouvoir avoir une entente avec les forces alliées. Et par un concours de circonstances, ça ne s'est pas passé comme les gens qui ont monté l'attentat, ça s'est pas passé comme ils le souhaitaient. Et tant et si bien qu'Hitler a été à peine soufflé par l'explosion, hein, il a été blessé très, très légèrement. Et là, évidemment, il avait survécu à ça. Mais au moment où il survit, évidemment, il est un peu étourdi, il va passer voir son médecin, et on a donc des radiographies de son crâne à ce moment-là, parce que son médecin lui a passé quelques radiographies pour lui dire, bon, ben, finalement, t'es pas blessé, il y a pas de traumatisme crânien, rien. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a réussi à mettre la main sur les archives allemandes, qui c'est des millions de pages de documents, on a tombé également sur le dossier médical d'Adolf Hitler, et dans lequel on avait des photographies de son crâne qui avaient été prises lors de ce fameux attentat de 44. Alors, quand les photographies commencent à circuler, là, d'abord par le livre de Bezymensky en 1969, ben là, il y a des médecins, notamment, des spécialistes en ontologie qui vont récupérer ces photographies, vont obtenir du service des renseignements américains les fameuses radiographies de 1944, où on voit le crâne d'Hitler et incluant sa mâchoire, bien sûr, et ils vont comparer, par exemple, les photographies avec les dents. Et en 1973, lors d'un congrès d'orthodontistes qui se tient là, quelque part en Europe, je pense que c'était à Oslo ou un truc comme ça, il va y avoir une présentation qui est faite et qui ne laisse aucun doute que les dents qui ont été publiées, la photographie des dents publiée en 1969 par Bezymensky, sont bel et bien les photographies des dents de la mâchoire d'Adolf Hitler récupérées au bunker au lendemain en mai 1945. Donc déjà là, il n'y a plus de doute. On avait déjà l'enquête en 1956, l'enquête britannique qui avait fermé le dossier. Il y a la publication des photographies des dents d'Hitler en 1969. Il y a ce fameux congrès là, d'ontologie là, qui se tient en Scandinavie où on montre très clairement que ce sont les dents d'Adolf Hitler. Le doute n'est plus permis. Là. Ça s'arrête là. Merci, bonsoir. Qu'on puisse nous faire 3 saisons à mentir éhontément semaine après semaine à des gens dans une station qui s'appelle Historia pour nous monter un canular comme cela. C'est vraiment épouvantable. J'ai pas de mots pour définir ça. J'ai pas de mots assez gros pour définir ça. Là. Ce n'est plus de la fraude. Là. C'est une malhonnêteté là, crasse. Là. Essentiellement dans le but de capitaliser sur une émission de télé qui n'est rien d'autre qu'une fumisterie. Donc, non, si les gens se posent la question, puis je vais pas passer toute l'émission là-dessus, mais si les gens se posent la question, c'est clair, on n'a aucun doute, zéro, là, pas 99, non, non, on a une certitude à 100% que Hitler est bel et bien mort au bunker tel que l'ont raconté ses proches, c'est-à-dire en mordant dans une capsule de cyanure, se tirant une balle, et ensuite son corps et celui d'Eva Braun ont été amenés à l'extérieur du bunker pour y être brûlés. Donc tout le reste, là, si on peut imaginer ce qu'on voudra, on peut l'envoyer se balader sur la Lune si ça nous chante, là. Mais tout ça ne fait plus partie de l'histoire. L'histoire est catégorique, on a tiré un trait, Hitler est mort au bunker, il n'y a aucun doute là-dessus.
C'est réglé.
C'est réglé, on va à la pause et je te reviens avec deux autres mythes tournant autour d'Adolf Hitler.
Super.
Radio X.
Radio X.
Drolet Ressort, c'est votre centre de mécanique de véhicules lourds à Québec. Avec 30 mécaniciens et 18 heures d'ouverture par jour, on vous assure des délais de réparation imbattables. Maître aligneur et mandataire SAAQ en vérification mécanique de véhicules lourds. DroletRessort.com.
Pendant que vous fêtez les 2 ans de Charlotte avec toute votre famille, l'AMF veille. Pendant que vous pédalez comme un forcené sur votre vélo stationnaire pour retrouver votre forme d'antan, l'AMF veille. Pendant que vous regardez en rafale votre série préférée, l'AMF veille sur vos dépôts en les protégeant au cas où une institution financière provinciale ferait faillite. Continuez de profiter de la vie. L'AMF veille. Pour en savoir plus, consultez l'autorite.qc.ca. Un message de l'Autorité des marchés financiers.
Tu veux des rénos sacoche? Appelle Rénovation et décor. Portes, fenêtres, revêtements extérieurs, toitures, patio et réno général. Appelle le proprio au 418-520-5104 puis demande Carl. Rénovation et décor, une entreprise familiale depuis 1964.
Brensour JGR à Laurier Station, le spécialiste en électroménager sur la Rive-Sud, offre une super promo sur les marques Whirlpool, Maytag et KitchenAid. Achetez 2 électroménagers de cuisine et plus et obtenez jusqu'à 500 $ de rabais additionnel. Brensour GGR à Laurier Station, à 20 minutes des ponts.
Transat présente un homme qui pratique son espagnol après avoir réservé un voyage dans le sud.
Buen día.
Bon dia.
Jugo de naranja.
Ludo de naranja.
Que recomienda?
Que recomienda?
Vous aurez le temps de pratiquer. Avec la promo Réservez tôt, obtenez plus de Transat. Réservez votre forfait hiver dans le sud maintenant pour plus d'économies et de flexibilité. Visitez transat.com ou contactez votre conseiller Club Voyage. Des conditions s'appliquent.
Quiero comprar esto.
Que c'est que quiero, quoi?
Air Transat, le voyage nous transporte.
Feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réjouit. Feu, feu, joli feu, danse dans la nuit. Vive la lumière du feu.
Vive sa lumière.
Feu, feu, joli feu, danse dans la nuit.
Feu de camp, mégot, brûlage de rebut. La négligence peut causer des feux de forêt. Évitons les feux évitables. Un message de la SOPFEU.
Le CFP Samuel de Champlain t'invite à découvrir ses 12 programmes en construction, administration, vente conseil et mécanique conseil. Des formations de courte durée avec des taux de placement de près de 100%. Bâtis ton avenir auprès d'enseignants qui ont ta réussite à cœur. Visite le cfpsc.qc.ca.
Vos capitales sont en action ce week-end. Pour une sortie parfaite en famille ou entre amis, c'est au Stade Canac que ça se passe. Billets au capitaldequebec.com.
Tu déménages? Tu veux réduire tes factures? Change donc de fournisseur Internet. Chez Oricom, tu peux avoir l'Internet fibre 500 Mbps à seulement $44,95 par mois. Payer moins cher pour ta connexion Internet et avoir plus de budget pour te gâter? Ça te parle? Avec Oricom, tu auras une connexion 100% fibre et un service 100% humain. Abonne-toi en ligne au oricom.ca. C'est facile et rapide. Comme la fibre, oricom.ca.
Morey, live.
Moi, j'ai une demande spéciale. Moi, je veux la femme d'or.
La femme d'or.
De Jerry.
Ah oui,
de
Jerry.
Poussière choix de lune. Dans avec mon œil, y a l'amour.
Avec vos choix de tune, le monde va venir au show avec les chaises de parterre.
Morey live. Lundi au vendredi, 6h.
Radio X.
Présenté par Gestion Lacoteau. Pour un achat de véhicule en toute confiance, c'est Gestion Lacoteau. Une entreprise familiale qui existe depuis plus de 30 ans, ouvert même le samedi.
GestionLacoteau.com.
Radio X. Files. Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission et toujours dans la thématique des mythes entourant le Troisième Reich, mon cher Christian. Mythes où nous, on présente des faits à l'émission. Alors, je vois que ça fait encore controverse aujourd'hui et matière à débat sur certaines affirmations.
La science, c'est la science. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le discours scientifique. Ils voient même la science comme des ennemis. Bon, cela étant dit, l'autre élément qu'on associe souvent au Troisième Reich, c'est est-ce que, oui ou non, le Troisième Reich était était noyauté de l'intérieur par une organisation occulte. Hein. Il y a toutes sortes de légendes qui entourent cet élément-là. Et elle est en partie vraie. En partie vraie dans la mesure où, à la fin du 19e siècle, il va se développer en Europe un mouvement qui valorise, en fait, un peu un engouement pour l'ancestral. Et cet engouement pour l'ancestral vient, en fait, d'une philosophie pseudo-religieuse qui s'appelle la théosophie. Ça a été lancé en 1875 par une dame qui s'appelait Helena Blavatsky, une aventurière russe, qui dit avoir voyagé au Tibet, et alors qu'elle était au Tibet, elle aurait eu des révélations. Et là, elle va donc créer une espèce de mouvement, un mouvement spirituel et mystique qui s'appelle la théosophie. Et cette théosophie va être récupérée, elle va avoir un certain succès. On est à la fin du 19e, début du 20e siècle, et principalement, il va y avoir une résonance en Allemagne, et cette résonance-là va prendre beaucoup de terrain après la Première Guerre mondiale. Parce que après la Première Guerre mondiale, il faut savoir que l'Allemagne, la Germanie n'existe plus, hein, c'est la République de Weimar. Et à ce moment-là, quand c'est la République de Weimar, on a accusé les Allemands, sont directement pointés du doigt pour avoir été ceux qui ont déclenché la Première Guerre mondiale, et on les force à payer la réparation au reste de l'Europe. Ce qui est littéralement égorgé le peuple allemand. C'est ce qu'on appelle l'entente de Versailles.
Le
traité de Versailles. Et là, les gens, ben, évidemment, là, le tribut à payer est tellement grand qu'on plonge littéralement l'Allemagne dans une crise économique. Et à ce moment-là, beaucoup d'Allemands, on se dit, ouais, mais dire que nous, là, l'Allemagne, ça a été parmi les plus grands peuples de l'histoire, hein. Après l'Empire romain, ça a été l'Empire germain, hein, la succession des Romains en Europe, c'est l'Empire germano, ouais. Là. Et là, on se dit, là, et là, nous, on est quoi? On est devenus à la botte de l'Europe. On a comme oublié qu'on a été des grands. Et c'est un discours, comme la théosophie reprend un peu ce discours nationaliste, c'est un discours qui touche beaucoup de jeunes Allemands, hein, et on le fait miroiter. Rappelez-vous là, nos ancêtres, rappelez-vous Charlemagne, hein, c'est un empereur germanique, puis bon, il avait son siège à Aix, tu sais, à Aix-la-Chapelle. On se dit, hey, wow, c'est extraordinaire, tu sais. Et là, on est devenu plus rien. Donc, c'est un discours qui frappe beaucoup l'imaginaire de ces jeunes Allemands. Et là, dans ce mouvement de théosophie, on raconte l'un des éléments que présente la théosophie de Madame Blavatsky, c'est de dire que le peuple, les civilisations du monde ont évolué en fonction de l'avènement de races mères. Et elle dit, ben, dans ces races mères, on a connu jadis les Atlantes, il y a eu les Hyperboréens. Et là, elle annonce une nouvelle race mère qui va contrôler le monde, et cette race, c'est les Aryens. Hein, si les gens se posent la question d'où ça vient le mot Aryen, quand on parle des Allemands, on dit, ah oui, ce sont la race aryenne, ben ça vient de là. C'est la théosophie de Madame Blavatsky. Elle annonce la nouvelle grande race qui va contrôler le monde. Elle dit, ce sera les Aryens, selon ses révélations. Dans les écrits de Madame Blavatsky, elle ne situe pas exactement qui ou quoi seront les Aryens. Elle dit, c'est un peuple d'Europe centrale, peut-être aussi venu de l'Inde. Elle reste vague sur qui va être les Aryens. Mais tu comprends que sous la plume nationaliste d'auteurs qui sont fortement opposés, par exemple, aux Juifs et qui ont des écrits là, qui sont très, très, très élitistes, pour eux, cette nouvelle race des Aryens, ça sera les Allemands. C'est les Allemands qui vont redevenir cette grande puissance, cette grande nation. Donc, on baigne un peu dans ce discours qui est à la fois nationaliste et mystique, qui s'inspire de la théorie de Madame Blavatsky. Et là, bon, on pense à jadis, au Moyen-Âge, aux chevaliers teutoniques. Il y a toute une dynamique visuelle autour de ça. Et beaucoup de jeunes Allemands, là, on est au lendemain de la Première Guerre mondiale, on parle des années 20, là, des jeunes qui vont rejoindre ces groupements un peu élitistes, nationalistes. Et parmi ces gens-là, ben, on retrouve Hitler et on va retrouver des gens autour de lui comme Himmler, Rudolf Hess, hein, qui sont des gens qui sont des proches, qui vont grandir un peu à l'ombre d'Hitler. Ces gens-là sont très attirés par ces mouvements-là. Éventuellement, lorsque Hitler prend le pouvoir et va créer son grand Reich qui doit durer 1000 ans, là, il faut le dire qu'autour de lui, Hitler n'est pas très attiré par ce discours-là. Donc, croire que le Troisième Reich est un mouvement occulte, c'est absolument faux. C'est un mythe qui a été créé là, à partir surtout des années 60. Et on peut même dire qui a créé ce mythe-là. Ce sont deux auteurs français, Jacques Bergier et Louis Powell, qui publient en 1960 un livre qui s'appelle « Le matin des magiciens ». Et dans Le matin des magiciens, ils vont d'une coche au-dessus. Là. C'est-à-dire que le Troisième Reich n'est pas seulement un groupe diabolique, c'est un groupe occulte. T'sais, on ajoute la tranche au-dessus. Là. Et là, le mythe se met en place. Mais dans les faits, autour d'Hitler, certains d'entre eux étaient vaguement intéressés par ces histoires un peu mystiques et ésotériques. Il y en avait un qui était très intéressé, il faut le dire, un qui était même passionné par ces mythes-là, et c'était Heinrich Himmler, qui était le chef de la SS. Donc lui, là, Himmler, même dans son château, j'ai visité son château, écoute, même les tuiles de son plancher étaient conçues en fonction de ça. Hein. Ça représentait des runes, donc une espèce de d'écriture occulte qu'on trouvait chez les Celtes. Donc on voit ces éléments-là dans les tuiles de son plancher. Le logo des SS, hein, c'est comme deux éclairs, c'est deux symboles runiques. Quand tu vas dans son château, dans la partie du sous-sol, il y a comme une espèce de soleil noir qui est sur le plancher. Et le soleil noir, Himmler croyait que le centre de la Terre était vide et qu'il y avait une espèce de soleil noir à l'intérieur et qu'il y avait un monde souterrain qui faisait partie un peu des éléments récupérés de la théosophie de Madame Blavatsky. Il était tellement obsédé par ces idées-là, Himmler, qui de son propre chef, parce que Hitler le laissait un peu aller, hein, c'était son bras droit, et Hitler se préoccupait des choses militaires, le reste ne le concernait pas trop. Et éventuellement, Himmler va créer une société de l'héritage, appelons ça comme ça, qui va s'appeler l'Ananerbe. Et cette société de l'Ananerbe, c'est comme une espèce de société d'archéologie. Hein. Il va engager des archéologues qui vont envoyer un peu partout dans le monde à la recherche du Saint Graal, de l'Arche d'Alliance. On va voir aussi, il existe des films d'archives où on voit les gens de l'Ananerbe qui sont, par exemple, au Tibet, qui mesurent le crâne des Tibétains parce que Himmler croit que les Tibétains sont les directs descendants des Atlantes. Puis il dit, si je réussis à trouver des éléments dans le crâne des Tibétains que je peux appliquer au crâne des Allemands, ben j'aurai la preuve que ce sont les Aryens, cette race tant attendue. Tu vois, on est loin dans le délire.
Oui, en bon français, ils en fumaient du bon à l'époque.
Oh, ouais. Et Himmler, tu comprends que les archéologues qui font partie de cette Ananerbe, hein, cette société ancestrale noble qui fait de l'archéologie, ben les archéologues s'assurent de remettre à Himmler des rapports qui vont faire son affaire. Parce qu'eux veulent continuer à travers ça, entre ces soi-disant enquêtes mystico-ésotériques, ils peuvent faire de la véritable recherche archéologique. Donc, ils trouvent du financement. Ça leur donne un job. Et de l'autre côté, ben, ils essaient de donner des informations à Himmler qui vont lui plaire. Et Himmler dit, ben, continuez votre bon travail, messieurs. Mais dans les faits, quand on regarde ça froidement, vu de l'extérieur, mis à part quelques individus qui avaient des espèces de délits personnel, qui est le cas d'Himmler, par rapport à cette espèce de culture ésotérique et mystique, ben, les faits montrent que non, le Troisième Reich n'est pas une organisation occulte, c'était un groupe politique. Et pour Hitler, la seule chose qui l'intéressait, c'était le pouvoir et la politique. Et les seules fois où Hitler a utilisé du symbolisme ésotérique ou mystique. Par exemple, c'est lui qui va dessiner la fameuse croix gammée, hein, qui est un symbole de vie éternelle. Aujourd'hui, on l'associe au Reich, mais c'est un symbole qui est très ancien, qui
emprunté.
A plus de 1000 ans, qui est emprunté, qui signifiait la richesse. En fait, c'est un peu comme l'équivalent de la corne d'abondance. Vie, longue vie et richesse. Là. Donc, il va réutiliser ce symbole-là. Là, des gens diront, oh, oui, mais il est tourné dans le mauvais sens, ça n'a pas d'importance. En réalité, la svastika, la fameuse croix gammée, tu peux la mettre dans n'importe quel sens, sur le symbolisme mystique, elle n'a pas de différence. Donc Hitler récupère ces éléments-là et les fois où il va utiliser ce mysticisme de la race ancienne teutonique, hein, il existe un tableau par exemple où Hitler a été peint en armure, brandissant comme une espèce de fanion devant lui, ben, ça nous rappelle les chevaliers teutoniques teutonique, pardon, mais ces éléments-là, ce sont essentiellement des éléments de propagande. Hitler croit pas à ça. C'est pas sa tasse de thé, là. Il laisse ça à Himmler et d'autres. Mais lui, sa concentration, c'est la politique et c'est délires de grandeur qui n'ont rien d'ésotérique et rien de mystique. Donc, cette idée-là d'un troisième Reich mystique, elle est vraie dans la mesure où on regarde le Reich avec les lunettes de Himmler, mais en dehors de ça, il y a très très peu de redondance ésotérique ou mystique dans l'existence du Troisième Reich, si ce n'est des racines très profondes, mais qui n'ont à peu près rien à voir sur l'ascension du groupement politique.
OK. Il nous reste encore quelques minutes, Christian. Je vois qu'il nous reste 7 minutes.
Ben, dans les 7 dernières minutes, il y a un autre élément qu'on associe souvent au Troisième Reich, c'est la création d'armes fantastiques et ce qu'on a appelé les Wunderwaffen. Et même, on a un discours, d'ailleurs, on l'entend ce discours-là dans la fameuse série Hitler et les nazis. À un moment donné, il prononce un discours devant les membres du Parlement et il dit « Bientôt de nouvelles armes apparaîtront, ils vont nous donner la victoire. Hein? » C'est le discours, c'est le fameux discours sur les Wunderwaffen. Donc, il annonce l'arrivée de nouvelles armes qui vont réussir à changer le cours de l'histoire et donner la victoire aux Allemands. Il faut savoir que ces nouvelles armes, c'est à peu près essentiellement ce sont les fameuses fusées, les bombes fusées qui vont être les V1 et les V2. Donc, okay. Les V1, c'est comme des avions sans pilote avec une bombe. Puis, le guidage était assez simple. On se disait pour de la côte, par exemple, de l'Allemagne jusqu'à l'Angleterre, ça prend 10 litres de carburant. Bien, on va mettre 10 litres de carburant. Quand il n'y a plus de carburant, la bombe va tomber à terre. D'ailleurs, les gens qui ont vu des V1, les gens qui étaient en Angleterre durant la Deuxième Guerre mondiale, disaient quand on entendait le sifflement des V1, tant qu'on entendait le sifflement, il n'y avait pas de problème, mais quand ça arrêtait de siffler, là, on savait qu'il était pour tomber, hein, parce qu'il était arrivé à court de carburant. Et éventuellement, les Allemands vont développer un type de fusée qui va être plus efficace, qui est le fameux V2. D'ailleurs, le créateur du V2, Wernher von Braun, après la Deuxième Guerre mondiale, va être récupéré par les Américains, ramené aux États-Unis, et il va devenir éventuellement le créateur des fusées qui vont permettre aux hommes d'aller sur la Lune. Hein. C'est le créateur de la fameuse fusée Saturne V qui permet aux hommes d'aller sur la Lune. Mais donc, c'est de ces armes-là qu'Hitler parle, hein. C'est de ces fameuses bombes volantes. Et là, on lui assure qu'avec l'avènement des V2, puis on est en train aussi de développer un nouveau chasseur, le Horten HO 229. Et là, mais le problème, c'est que ça arrive beaucoup trop tard. On n'arrive pas à créer des chaînes de montage pour créer ces nouveaux avions qui sont propulsés à réaction. Tout ça arrive trop tard. Et éventuellement, dans les années qui vont suivre, immédiatement d'ailleurs, avec l'arrivée des soucoupes volantes en 1947-1948, quand la presse commence à parler de ces fameuses soucoupes volantes, ben, il y a un peu comme des ingénieurs frustrés ou des gens qui vont se mettre à raconter « Ouais, ça a été inventé par les Allemands, mais en réalité, il n'y a rien de ça. » Et éventuellement, dans les années 60-70, on va même voir des plans qu'on nous présente comme étant des plans originaux de ces engins-là. Mais déjà, c'est assez amusant parce que quand on regarde les premiers récit là, de 47-48, des gens qui commencent à dire « Ouais, ça a été inventé par des ingénieurs allemands. Ben, » ça ressemblait plutôt à des hélicoptères avec un cockpit au centre puis des hélices qui tournaient autour. Et dans les années 70, là, c'est devenu de véritables soucoupes volantes. Donc, okay. On voit qu'il y a une évolution technologique là, entre l'hélicoptère à cockpit central et la soucoupe volante turbo-propulsée. Là, on est vraiment dans deux mondes différents.
Oui, oui.
Mais il faut savoir que tout ça, c'est faux. Ça n'a jamais existé. Ces histoires de soucoupes volantes nazies, si vous voyez des plans circuler, vous entendez parler de ça, ce sont des mythes qui ont été créés dans les années 60-70. Et quelque part, ça peut faire sourire, mais il y a quand même un côté un peu choquant derrière ça, parce que dans le discours des gens qui nous font la promotion de ces histoires-là, les Allemands ne sont plus des méchants. Hein, ils deviennent un peu comme des héros. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas perdu la guerre, ils ont même simplement passé à autre chose. Hein. Ils étaient rendus à un niveau de développement tel que ils ont construit des soucoupes volantes, sont allés sur la Lune, il y avait des contacts avec les extraterrestres, la guerre ne les intéressait plus. Donc, les héros deviennent des héros. Tu sais, et ça, c'est un peu dramatique. Et quand on regarde derrière cette propagande, les Allemands étaient bons, les Allemands ont inventé des choses merveilleuses, les Allemands avaient des bases souterraines en Antarctique, les Allemands avaient des soucoupes volantes. Ben, ce discours-là, quand on gratte un peu, on découvre souvent que les gens qui écrivent sur ces sujets-là, qui font la promotion de ces sujets-là, ben, ce sont souvent des négationnistes, donc des gens qui refusent de croire que le Troisième Reich a exécuté 6 millions de Juifs, qu'il y avait des camps de la mort, que tout ça est une invention, une propagande faite par les forces alliées.
C'est un déni d'existence.
Oui, c'est un déni. D'ailleurs, en Europe, hein, le négationnisme est considéré comme un crime. Hein. Si tu t'en vas sur la place publique puis tu dis qu'il n'y a pas eu de camp de concentration, tu vas te faire arrêter. Tu n'as pas le droit de... c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité que de refuser de croire au camp de concentration puis tout ça. Bon, c'est négationniste, puis on le sait, il y a eu au cours des 20 ou 30 dernières années, il y a eu une montée de groupements néo-nazis, autant en Europe qu'aux États-Unis, hein, parce que, bon, la société, je sais pas pourquoi il faudrait demander à des sociologues. Moi, je suis pas sociologue.
J'allais
mais c'est
te
vrai
poser le pourquoi tu me devances.
Il y a une montée du fascisme, puis à travers cette montée du fascisme, il y a évidemment cette idéologie néo-nazie qui reprend place. Et à travers ça, bien, évidemment, on sent toute la mouvance un petit peu, que je dirais, raciste. Hein, les blancs suprémacistes. Hein, les blancs suprémacistes, ben, c'est l'idéologie même du Troisième Reich. Et quand on regarde donc toutes ces histoires de soucoupes volantes nazies, puis des bases souterraines, puis des contacts avec les extraterrestres, comme je le dis, ça fait sourire. Mais quand on regarde plus profondément cette dynamique-là, on s'aperçoit que souvent derrière ces discours-là se cachent des gens de philosophie pro-nazie, des blancs suprémacistes ou des gens qui essaient de renverser la vapeur en nous faisant croire que Hitler, c'était pas lui le méchant dans l'histoire, c'était le bon, puis qu'il n'y a jamais eu de camp de concentration ou des trucs comme ça. Donc, il faut se méfier de ça. Souvent, on pense à travers... un discours presque fantaisiste et farfelu pour cacher derrière des intentions qui sont souvent beaucoup plus obscures.
Oui, bien, on va essayer que le monde brûle pas pendant l'été.
Ouais, que le monde... souhaitons que le monde soit meilleur.
Ben oui,
la seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'il faudrait que le monde soit meilleur.
Tu me l'apprends. Écoute, cette montée-là, je n'étais pas au courant de ça. Christian, encore une fois, tu m'apprends des choses à chaque émission qu'on fait ensemble. Je te remercie. C'est la dernière pour la saison. Donc, dans les prochaines semaines, on aura au courant de l'été également les meilleurs moments de la dernière saison des Radio X-Files, de la dernière année plutôt. Et on se retrouve, toi et moi, dans la semaine du 12 août. Et on l'annonce. Cette semaine, je l'ai annoncé dans l'émission du Spacecast, on aura un nouveau projet ensemble qui est une exclusivité dans les radios au Québec, une émission consacrée au phénomène True Crime, qui est mon petit dada, je m'en cachais à peine pendant la saison que j'adorais en parler. Il y aura une émission, un bébé projet qui va grandir cet été, on n'aura plus de détails à vous annoncer, mais je te remercie Christian de m'avoir considéré pour ce projet-là. On va triper ensemble.
Plaisir. J'aurais même pas pensé le faire sans toi.
Ah, oh, ben là, hey, là, tu me fais une fleur. Comment? Ouais. Ça finit bien l'année.
C'était un peu comme une condition sine qua non. Ce projet-là, il ne peut exister qu'avec la participation de Camille.
Et moi, c'est un oui, tu le sais. Donc, on se revoit pour commencer tout ça. Ce nouveau projet-là et les Radio X-Files qui se poursuivront dans la semaine du 12 août. Christian, bon été, bon tour de Camaro et salut ta conjointe pour moi également.
Ben, pareillement pour toi.
Et bon été aux auditeurs et on se dit à la prochaine.
Radio X-Files.
Files. Radio X.
Moreau en jazz.
Bon, écoutez, les gens, ils s'imaginent que parce qu'ils ont un sonar dans chaloupe, ils vont prendre plus de poissons. Le premier poisson que ça pogne un sonar, c'est le gars qui l'achète. Ça, c'est le premier poisson. Parce qu'en réalité, si on ne sait pas pêcher, c'est pas parce qu'on a un sonar qu'on va être capable de prendre du poisson.
Moreau en jazz. Lundi au vendredi, 10h.
Radio X.
Présenté par Chep Oben. Cette semaine, le vélo N-Rog 26 pouces sont à 324,99 et le méga flotteur Intex à 84,49. Offre d'une durée limitée. ChepOben.com.
Vos capitales sont en action ce week-end. Au menu, vendredi, feu d'artifice présenté par les systèmes acquis. Samedi, hot dog à 1$ et dimanche des familles, billets enfants à 5$. Billets au capitaldequebec.com.
Le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Pas avec Pavé Concept. Obtenez un camion 12 roues de terre à gazon à partir de 299$ et du gazon à 49 sous du pied carré à l'achat d'une palette. Vous préférez la semence? Épargnez 25% sur la meilleure semence qui nécessite moins d'eau et qui est nettement plus efficace que celle en quincaillerie. Encore trop de casse-tête? Le gazon synthétique est offert à 15% de rabais. Promo valide jusqu'au 30 juin. Chez Pavé Concept, on a la bonne option pour vous en magasin ou au pavéconcept.ca.
Tu déménages?
Tu veux réduire tes factures? Change donc de fournisseur Internet. Chez Oricom, tu peux avoir l'Internet fibre 500 Mbps à seulement $44,95 par mois. Payer moins cher pour ta connexion Internet et avoir plus de budget pour te gâter? Ça te parle? Avec Oricom, tu auras une connexion 100% fibre et un service 100% humain. Abonne-toi en ligne au oricom.ca. C'est facile et rapide. Comme la fibre, oricom.ca.
Le CFP Samuel de Champlain t'invite à découvrir ses 12 programmes en construction, administration, vente conseil et mécanique conseil. Des formations de courte durée avec des taux de placement de près de 100%. Bâtis ton avenir auprès d'enseignants qui ont ta réussite à cœur. Visite le cfpsc.qc.ca.
Feu, feu, joli feu, ton ardeur nous réjouit. Feu, feu, joli feu, danse dans la nuit. Vive la lumière du feu.
Feu de camp, mégots, brûlage de rebut. La négligence peut causer des feux de forêt. Évitons les feux évitables. Un message de la Sopfeu.
Votre pelouse mérite l'excellence et Groupe Verdure en sait quelque chose. Nos experts traitent votre pelouse en transformant votre terrain en véritable paradis. Vos voisins nous font confiance depuis 37 ans. Faites pareil. Verdure.com.
VERTDURE.com.